Chers auditrices, bonjour et bienvenue dans Capi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Que faut-il faire pour permettre aux communautés locales de profiter des dividendes des ressources énergétiques en RDC? Nous en parlons avec Maître Eric Kasungo, il est directeur exécutif du Centre Congolais pour le Développement Durable, codé dans sigle. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur le Journaliste.
Bienvenue dans Capi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Nous attendons vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook de Capi Service et dans le courriel dénommé service@radiocapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime cette émission sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo coordonne cette émission et Jean-Noël Mokondo s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ce magazine de Faits des Sociétés.
Festival Sans Voix pour la Paix. Ensemble, faisons vibrer nos voix au rythme de la paix en RDC. Le 22 octobre, à partir de 12h, au village Iossi à Goma, en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. Au menu, un grand chœur de 100 choristes qui chantent à l'unisson pour la paix au Congo. Et une collecte spéciale sera organisée en faveur des déplacés de guerre. Le festival Sans Voix pour la paix Gospel Mass Choir for Peace, célébrant tous ensemble la paix par le gospel pour un Congo fort et prospère.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Que faut-il faire pour permettre aux communautés locales de profiter des dividendes des ressources énergétiques de la RDC? En RDC, les ménages urbains et ruraux font face à un faible taux de couverture en énergie électrique. Selon les acteurs de la société civile, c'est inconcevable que le taux d'accès à l'énergie électrique soit inférieur à 10% au regard des potentialités énergétiques de la RDC. L'avènement de la libéralisation du secteur de l'énergie électrique qui a incité les opérateurs économiques à installer des microcentrales hydroélectriques et des panneaux des centrales photovoltaïques sur l'ensemble du territoire national ne profite jusque-là presque pas aux communautés selon nos sources. Les cahiers de charges ne sont pas souvent respectés et les mécanismes de suivi du respect des clauses sociales ne sont pas vraiment efficaces. Que faut-il faire alors pour permettre aux communautés locales de profiter des dividendes des ressources énergétiques de la RDC? Nous rappelons que nous en parlons avec Maître Eric Kasungo, il est directeur exécutif d'ECODED. Maître Eric, brièvement présentez-nous l'organisation que vous êtes, que vous représentez ici, excusez-moi, la tautologie.
Merci beaucoup. Le Centre congolais pour le droit du développement durable est un centre qui existe depuis 2008. Nous faisons de façon générale la promotion du développement durable. Et comme vous le savez, le développement durable, c'est 17 objectifs. Et parmi ces objectifs-là, on adresse aussi des questions d'accès à l'électricité. C'est l'objectif numéro 7. Et donc, CODED travaille comme une institution de recherche, mais aussi... une ONG qui fait les plaidoyers sur diverses thématiques, notamment la thématique qui nous réunit ici, qui est l'accès à l'électricité de la population congolaise.
Mais est-ce que vous partagez le constat que j'ai dressé à l'entame de cette émission?
Le constat que vous avez dressé est juste. La population congolaise n'a pas accès à l'électricité, malgré ses innombrables sources disponibles, malgré la libéralisation du secteur, malgré la volonté du législateur d'inviter plusieurs opérateurs privés à venir lui prêter main forte dans cet exercice de réalisation de ce service public d'électricité qui est donner l'énergie électrique aux gens, eh bien, nous sommes toujours à un niveau très faible et cela est juste non seulement inacceptable, mais c'est quelque chose que nous devons changer à tout prix parce que les possibilités sont là, les moyens sont là et il faut vraiment travailler de manière à à faire en sorte que d'un point de vue non seulement incitation des opérateurs privés, mais aussi d'un point de vue amélioration de la réglementation, les choses soient faites de manière à ce que chaque Congolais puisse avoir accès à l'énergie électrique.
Oui, la loi a été, le secteur a été libéralisé depuis plus de 5 ans. Aujourd'hui, maître, quelle est la tendance en termes de couverture? Est-ce que la tendance, elle est, en termes de pourcentage, elle augmente ou c'est toujours régressive?
Elle augmente timidement, si je dois être honnête. La tendance augmente timidement depuis la libéralisation. Mais si l'on fait les calculs un peu depuis la libéralisation qui est intervenue en 2014 jusqu'à ces jours, nous allons presque dans la 10e année depuis la libéralisation. Je peux vous dire que le pourcentage est très faible parce que bien que aujourd'hui on n'est pas tout à fait d'accord sur les statistiques qui sont avancées par les uns et les autres.
Ce sont des estimations
sur les taux d'accès. vous lirez dans certains documents officiels que le taux est encore à 9%. D'autres vous diront que c'est à 13%. D'autres encore vont plus loin pour dire que nous sommes déjà à 19%. Mais les pourcentages, c'est pas le plus important. Les pourcentages, c'est le courant, l'énergie électrique telle qu'elle est constatée dans nos milieux, là où nous vivons, tel que on peut le constater dans l'énergie ou le dynamisme en termes d'activités socio-économiques qui sont développées par la présence du courant électrique. Donc rien qu'en constatant cela, on voit que 10 ans c'était beaucoup, mais très peu de progrès. Et cela doit absolument changer parce que c'est absurde.
Oui, mais dites-nous alors, quels sont les facteurs qui sont à la base de cette situation, maître? Parce que le secteur a été libéralisé, des investisseurs, il y a quelques investisseurs qui sont déjà lancés dans le secteur, mais visiblement, il n'y a presque rien d'intéressant ou de visible, de palpable sur terrain en termes de profits liés à ces investissements-là.
Non, très bonne question. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent là-dedans. Moi, je dirais que un des premiers éléments qu'il faut relever, c'est le fait que l'électricité étant devenue un produit marchand, les gouvernements a failli un peu à faire des incitations nécessaires auprès du patronat congolais, auprès des opérateurs économiques congolais, pour qu'ils se ruent sur le marché. C'était ça l'objectif initial. La libéralisation voulait séduire les mondes économiques pour que le monde économique puisse investir beaucoup d'argent. Alors, il y a eu très peu d'investisseurs qui ont investi dans le secteur de l'énergie. Et les peu qui ont investi ont fait face à plusieurs problèmes. À un problème de la réglementation qui n'était pas encore achevée et qui a donné lieu à beaucoup de difficultés pour ceux qui voulaient se lancer justement dans la production de l'énergie. Il faut parler avec eux pour entendre les difficultés auxquelles ils font face.
Ils ont fait face, oui.
Notamment le fait d'écrouler sous plusieurs taxes, et ainsi de suite. Voyez, nous sommes dans une situation où l'État a besoin d'améliorer les niveaux d'accès. Vous avez quelques privés qui répondent un peu à l'appel, mais aussitôt qu'ils se lancent, eh bien, ils font face à beaucoup de difficultés, notamment les difficultés relatives à une réorganisation insuffisante de la mise en œuvre de la loi sur l'électricité, qui va de la distribution, des conditions de distribution de l'énergie, mais aussi de la répartition des zones de distribution entre les opérateurs qui interviennent dans les zones anciennement couvertes par la Société nationale de l'électricité, SNEL, qui détenait le monopole. Ça, c'est un problème encore courant aujourd'hui et que nos yeux sont tournés vers l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, l'ARE, pour voir quelles sont les solutions à long terme qu'ils proposent pour régler, par exemple, ces problèmes de la distribution, la répartition des zones de distribution. Parce que ça donne lieu à des situations telles que sur les terrains, vous avez une entreprise qui produit, mais parce que ces zones de distribution est limitée, eh bien, ne sait pas distribuer correctement l'énergie électrique à ceux qui en ont besoin. Mais ceux qui ont la zone d'électricité, la zone de distribution...
Mais généralement, maître, c'est pour combler au déficit de l'énergie électrique de la SNEL, donc, parce que les bons clients, ce sont généralement des miniers, et donc les entreprises qui viennent dans le secteur, parce qu'ils ont investi des capitaux, ils doivent compenser. Donc des bons clients, ce sont des investisseurs qui sont dans le secteur minier, c'est tout à fait normal. Ils ont investi des capitaux, ils doivent les récupérer.
Oui, ça c'est un autre problème que vous soulevez, c'est que celui de la répartition de l'énergie qui est produite. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à considérer que les bons clients sont des miniers, que les bons clients sont des commerces et des industries, mais on néglige un peu la masse des populations qui, lorsqu'on mesure le nombre, peuvent constituer une clientèle intéressante si on leur fournit une énergie de qualité. C'est ça le problème que nous avons actuellement. L'énergie électrique qui est fournie aux populations n'est pas une énergie électrique de qualité, qui est permanente, qui leur permet d'adresser leurs problèmes quotidiens, de cuisson ou encore des problèmes liés par exemple aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises qui peuvent fonctionner. Les petites et moyennes entreprises que vous pouvez imaginer dans toutes les formes qui existent.
Oui. Mais il y a des PME qui décollent aujourd'hui à l'est du pays, à Goma.
Exactement.
Et qui rapportent aussi des revenus intéressants.
Qui sont négligés.
Oui.
Parce qu'à certains moments, mélangés aux populations, qui sont négligés par ceux qui produisent l'électricité. Donc voilà tout un tas de facteurs qui font qu'aujourd'hui, c'est très difficile de voir une situation qui s'améliore dans beaucoup de grandes villes de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kinshasa, où il existe encore plusieurs poches noires. Poches noires, d'ailleurs, que nous sommes en train d'inventorier, parce que nous, dans le cadre d'un groupe que nous avons mis en place avec les amis de la CORAP, dans le cadre du réseau Mwangaza, on a mis en place un groupe qui s'appelle le Core Group Kinshasa, qui réfléchit à identifier tout ce qu'il y a comme poches noires dans la ville de Kinshasa et voir quelles sont les solutions pérennes qui peuvent être encouragées.
Vous faites également l'audit au sein de CODED. Dites-nous, lorsque vous allez dans les zones où l'on a installé des microcentrales hydroélectriques, où l'on a installé des microcentrales photovoltaïques, est-ce que les communautés locales tirent profit de ces investissements, maître ?
Eh bien,
celles qui sont proches de ces sites ?
Je dirais que non. Immédiatement, parce que la loi est claire. Hein, la loi recommande, parmi les obligations que la loi fixe pour tout développeur de projet, détenteur d'une concession, de production, des transports et des commercialisations de l'énergie électrique, il doit alimenter les zones riveraines où elle est installée en énergie électrique.
Mmh.
Mais dans la pratique, on a tendance à constater que ça devient plutôt de la mendicité. C'est comme si la population doit mendier, doit supplier pour avoir accès à cette électricité alors que c'est un droit. Donc je vous dirais que non, pratiquement. Et les solutions qui sont parfois proposées, elles sont faites par le bon vouloir à peu près de l'opérateur qui est installé sur place et qui peut ou pas donner de l'électricité à ces populations-là. Je vous donne un exemple concret d'une centrale qui venait d'être inaugurée, la centrale de Busanga, qui a produit 240 mégawatts. Et sur les 240 mégawatts, pour vous dire que l'État n'intervient pas vraiment dans la manière d'orienter ce qui doit revenir à la population, bien que la loi le dit très bien, la loi sur les cahiers de charges qui guide tout opérateur de l'électricité, eh bien, il a fallu attendre longtemps pour apprendre que, bon voilà, sur les 240 mégawatts, eh bien, 40 mégawatts sera fourni à la population via l'opérateur officiel. Et même là, on ne sait pas encore les conditions dans lesquelles. Peut-être que les discussions sont en cours entre la SNEL et l'entreprise Sico Hydro, qui est propriétaire de la centrale de Busanga, pour voir concrètement ça va se passer comment, quel genre de PPA ils vont signer avec la SNEL, quelles sont les conditions qui sont là-dedans. Alors que nous pensons au niveau de la société civile, au niveau du réseau Mwangaza, dont je suis le porte-parole ici, qu'il faut qu'il y ait un minimum de régulation qui oriente les opérateurs sur la manière de respecter cette obligation qui consiste à alimenter les populations.
Maître, est-ce que c'est la faute incombe aux développeurs qui viennent investir ou c'est la loi qui n'est pas très bien développée?
Oui, notre propos n'est pas de dire que la faute incombe aux développeurs ou quoi que ce soit. Notre propos, c'est de dire que voilà, la loi ne dit pas clairement ce qu'il faut faire et qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Comment il faut le résoudre? Il faut réguler correctement. Et là, nous lançons un appel à l'autorité de régulation, parce que c'est à l'autorité de régulation d'inspirer les réformes qui doivent intervenir dans le secteur de l'électricité. Et donc, ces problèmes que nous avons identifiés, nous pensons qu'il peut trouver une réponse dans la réforme, dans la réglementation. Voilà pourquoi nous avons proposé cette idée de réfléchir sur un quota d'accès à l'électricité pour les populations, partant des dispositions légales qui encouragent justement les opérateurs économiques à fournir de l'énergie électrique aux populations riveraines.
Maître, dans cette émission, nous donnons également l'occasion à la population congolaise de se prononcer sur les sujets que nous traitons. Donc, nous allons partir au standard afin de donner la parole à la première vague des auditeurs qui appellent à travers les pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux communautés locales de profiter des dividendes des ressources énergétiques de la RDC? Nous en parlons dans cette première tranche d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Nous attendons vos commentaires, questions et suggestions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42-502. 42-502. Une fois sur le 42-502, vous avez le choix entre différents programmes. Différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doublée au 323. Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502. 42-502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Nous commençons par Monsieur Jérémy. Jérémy qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Jérémy, bonjour. Monsieur Jérémy, vous êtes au bout de fil ou pas? Malheureusement, la ligne, Marcel va tâcher de rappeler, hein, de rappeler Jérémy. Cette fois-ci, allons à Bounia pour donner la parole à Justin, à qui on dit bonjour. Justin Kalabia, vous êtes à Bounia, vous m'entendez? Malheureusement, la ligne de Justin aussi n'est pas bonne, donc on va rappeler ces des auditeurs. Boniface, vous êtes à Chimbulu, au Kasaï, bonjour. C'est qu'il y a un problème sur toutes les lignes, donc on va tenter de relancer hein, ces trois auditeurs. Alors, est-ce que lorsque vous auditez, vous questionnez, vous posez des questions à ces communautés qui sont autour, est-ce que on les associe lorsque les investisseurs viennent, par exemple, pour occuper un site qui va abriter un barrage hydroélectrique ou une centrale photovoltaïque? Est-ce qu'il y a des arrangements qui se font en amont avec les communautés locales?
Des arrangements, je pense que pas de façon formelle à voir à ce que nous avons constaté, par exemple, dans le cas de Busanga. Prenons cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus courant où notre collègue du Kolwezi, Maître Dona Kambola, a travaillé avec beaucoup de communautés qui ont été déplacées. Nombreux d'entre eux ont été surpris de se voir notifier leur délocalisation qui est intervenue dans des conditions très très difficiles, alors que c'est des questions qui, comme vous le dites, doivent faire l'objet des consultations et des définitions claires des standards qu'il faut appliquer par rapport au type d'indemnisation qu'il faut faire et même aux conditions de leur délocalisation. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait sur les terrains. Dans la plupart des cas, les communautés sont chassées en désordre et on leur émet des modiques sommes d'argent qui ne représentent pas ce qu'ils ont perdu en termes d'habitat, mais aussi en termes des zones abritant leurs activités champêtres. Aujourd'hui, plus de 200 personnes qui ont été déplacées, on va me corriger si je me trompe sur les chiffres, dans le cadre du projet Busanga, nombreux dorment encore dans des conditions très très difficiles et c'est ça que nous voulons éviter. Mmh. Voilà pourquoi on a inspiré ces textes-là de mesures d'indemnisation claires qu'il faut adopter de manière à guider et orienter parce que l'opérateur ne doit pas se considérer comme ayant les mains libres, surtout sur des questions qui concernent les communautés. Il faut un minimum d'orientation du côté de l'autorité de régulation qui doit s'assurer que les ABC de comment est-ce que les communautés doivent être déplacées de leur zone d'habitat où ils ont toujours été depuis des années puissent être clairement définies et surtout établir des mesures de suivi claires qui permettent de vérifier que chaque étape a été respectée par les opérateurs produisent l'électricité, de sorte à éviter tous les désordres qui règnent sur les terrains en ce moment.
On a aussi avec nos lignes téléphoniques les temps pour la technique hein, de réparer la situation. Donc nous allons lire quelques commentaires. Il y a Monsieur Jérémy qui nous écrit ceci. Il dit la RDC est toujours un pays hein, paradoxe. Nos potentialités de nos ressources naturelles et énergétiques étant éloquentes parle en notre faveur. Cependant, la couverture en courant électrique reflète l'image d'un parent pauvre dont les pourcentage enterré quasiment en terre carbone dans notre pays. Forcément, nous sommes un pays solution dans la couverture de l'universalité. L'énergie devrait couvrir même les villages environnants. En définitive, il faut une prise de conscience et surtout la volonté de réguler ce secteur. Un commentaire par rapport au message que nous a laissé cet auditeur depuis Lubumbashi.
Tout à fait. Le Congo est un paradoxe, je l'ai dit au début. Mmh. Nous avons toutes les sources possibles qui puissent... Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, nous avons, comparativement à d'autres pays, un niveau d'ensoleillement au niveau de la RDC qui est supérieur à beaucoup de pays européens ou d'autres pays africains de la zone, tout simplement parce que nous sommes traversés par l'équateur. Alors, je peux vous dire, par exemple, un pays comme l'Allemagne, qui n'a pas le niveau d'ensoleillement de la RDC, a développé une capacité installée de plus de 50 000 mégawatts de l'énergie photovoltaïque. Si l'Allemagne, qui n'est pas aussi ensoleillée, peut développer ça, à combien plus forte raison la RDC peut atteindre? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous entendez les experts parler, on fait souvent allusion à notre potentiel hydroélectrique, qui est certes riche, mais insuffisamment développé, 100 000 mégawatts, dont on n'a pas encore développé même les tiers de ces 100 000 mégawatts-là. Du potentiel
hydroélectrique. Oui, mais maître, il y a quand même des initiatives hein, dans le cadre de l'énergie solaire qui sont entreprises à travers les pays, ça il faut le reconnaître.
Oui, ces initiatives sont louables et je salue ici nos amis des Nourou dans le Goma et qui vont s'étendre aussi dans d'autres provinces qui font un excellent travail. Ils sont louables, mais ils représentent encore à un pourcentage insignifiant par rapport au potentiel solaire de la RDC. Il faut que la RDC puisse développer un potentiel solaire. Ça lui permettra de développer l'énergie solaire aussi puissante que l'énergie hydroélectrique. Et là, j'ai comme l'impression que les gens n'ont pas encore compris ce que Nourou a compris, parce que avec les 1,3 MW que Nourou a produit à Kinshasa, plutôt à la ville de Goma, passer pour voir l'impact économique que cela produit. Il faut qu'il y ait un effet d'entraînement. Il faut que les opérateurs économiques se lancent pour justement faire en sorte que ces potentiels soient développés et que le niveau d'accès à l'électricité puisse s'accroître. Parce que le développement ne peut pas venir sans une bonne électrification. Et une électrification qui n'est pas seulement centrée dans des grands centres urbains, mais une électrification qui est décentralisée, qui va vers les populations, qui va encourager les activités d'autoproduction, qui fait pour faire en sorte que les développements viennent de la base.
Et c'est que vous êtes un vrai maître parce qu'à Goma, en termes de qualité de l'énergie fournie par nous, vous et celle fournie par la SNEL, c'est le jour et la nuit. Hein, quand vous posez la question à la population, j'ai été là-bas il y a 2 ou 3 mois, en tout cas les gens disent la SNEL nous donne du courant à minuit, mais avec nous, on a l'énergie en permanence. Donc c'est vraiment un facteur de développement et la concurrence, la libéralisation de ce secteur-là est une bonne chose, mais il faut mettre des mécanismes pour faire avancer au fait des projets dans les secteurs.
Effectivement, on n'est pas là pour tricher un opérateur pour un autre, mais c'est vrai que les gens constatent que l'énergie électrique telle que fournie par l'ancien opérateur pose parfois des problèmes à cause de nombreux problèmes liés à la vétusté parfois des matériels, mais aussi à la manière dont l'énergie qui est disponibilisée est redistribuée et dispatchée, parce que nous avons décrié le fait que l'importance est beaucoup donnée aux usagers finaux commerciaux et industriels. Considérés comme des bons clients, à tort. J'insiste qu'on considère à tort que ce sont des bons clients parce que à côté d'eux, il y a quoi? Il y a des millions de Congolais qui ne demandent qu'à voir un courant, une énergie de qualité. De
pour développer des activités aussi génératrices de revenus.
Développer des qualités et faire confiance à l'opérateur et commencer à payer justement. Voyez tout l'argent que l'on néglige. Et je ne connais pas les chiffres d'affaires des nouveaux, mais je peux vous dire que depuis que ça existe, le nouveau continue à faire parler de lui. Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire qu'on peut faire 1.3 mégawatts, distribuer de l'électricité à côté de quelqu'un qui peut en produire des centaines ou des milliers. Mmh. Mais non seulement fournir de l'électricité à la population, mais trouver son compte. C'est ça justement le message que nous voulons envoyer aux opérateurs privés, membres de la fédération. Il y en a qui ont compris, il y a par exemple Kipa Investment qui construit la centrale de Sombwe, hein, et il y en a d'autres. Mais nous avons besoin de voir plusieurs investisseurs se lancer dans la production, surtout pour l'énergie photovoltaïque.
Je retourne sur la page Facebook d'Okapi Service pour lire les commentaires de Kaleka. Il nous dit ceci, je vous écris depuis la ville de Kananga. À mon avis, hein, moi je pense que pour permettre aux communautés locales de profiter des dividendes des ressources énergétiques de notre pays, nos autorités doivent prendre tout au sérieux, car nous voyons les barrages chômés ici, des barrages qui sont à l'état d'abandon. Je prends par exemple dans notre province du Kasaï central, nous avons un barrage de chez de Katende qui peut servir les grands Kassai, Mbujimayi, Kassai et Kassai Central, mais ces barrages sont négligés depuis quelques années. Il y a quelques promesses de la part de nos autorités, jusqu'à présent, rien n'est fait.
Ça, c'est une très bonne question. Malheureusement, ce n'était pas notre propos d'aujourd'hui, mais je dois dire quelque chose parce que le réseau Mangaz a communiqué là-dessus. Mmh. Ça touche au troisième axe des activités du réseau Mangaz qui est une gouvernance responsable du secteur. La gouvernance responsable veut tout simplement dire que l'argent, les fonds qui est mis dans le secteur de l'énergie, d'où qu'ils viennent, hein, des fonds publics, que ce soit des bailleurs des fonds multilatérales, que ce soit du gouvernement directement. Et le cas de Katende, c'est un cas hybride qui a fait qu'il y a eu un partenariat d'abord, et puis il y a eu l'argent déboursé par le gouvernement, et qui n'a pas produit quelque chose. Ça, c'est un problème. Et dans le cadre de cette gouvernance, nous avons fait voir qu'il y a beaucoup de flux financiers qui circulent dans les secteurs de l'énergie, mais qui sont mal affectés et mal gérés, qui donne lieu à des résultats désastreux comme ceux de Katendela. Qui fait que, depuis des années, vous avez appris qu'en Angola, ils ont inauguré une centrale il n'y a pas longtemps. Oui. Au Congo, Brazzaville, j'y étais il n'y a pas longtemps, on a inauguré une centrale. Mais Katendela, ça fait plus de 6 ans qu'on en parle. Pas un seul mégawatt produit. Pourquoi? À cause de la gouvernance dans les fonds qui sont mis dans les secteurs, dans ces secteurs-là. Et donc ça, c'était notre problème. Peut-être que nous reviendrons ici pour une autre session et parler de tout l'argent qui circule dans les secteurs, mais qui n'apporte pas, n'améliore pas la situation d'accès à l'énergie des populations, quoi.
Oui, mais il faut reconnaître aussi, maître, que du côté de Kakoumoula, par exemple, d'ici là, la ville de Kikwit sera électrifiée grâce à ces barrages-là.
Mais justement, Kakoumoula.
Bien que ça traînait aussi, il faut le reconnaître.
Kakoumoula est dans la même situation. Était dans la même situation que Katende. Mm. Ça fait des années qu'on parle de Kakobola. Et puis, nous sommes en train de réfléchir au niveau de Mwangaza pour que, quand même, au niveau du gouvernement, on puisse arrêter cette histoire des comités de pilotage des projets. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un projet est lancé, on ne sait pas quelle institution suit de près l'argent qui a été dépensé, qu'est-ce qui a été fait avec cet argent-là, à cause des comités. Chaque projet hydroélectrique qui est appuyé par le gouvernement ou par les bailleurs multilatérales et piloté par des comités de pilotage dont on ne connaît pas même pas la base légale de l'existence et dont qui ne sont même pas audités. Les comités de pilotage de Kakobola, je ne sais pas combien il y en a eu de comités de pilotage qui a fait que la centrale a pataugé. Si vous dites que ça va être inauguré, tant mieux.
Ouais, parce que je vis des pylônes dans les rues, les avenues de Kikwit. J'espère que d'ici là, ça sera lancé.
Bah, très bien. Pour autant que Katende puisse suivre l'exemple de Kakobola. Autrement, nous allons faire en sorte que le gouvernement puisse arrêter avec ce système d'avoir des comités de pilotage de projets à chaque projet et désigner une institution claire pour essayer de faire l'évaluation de ce qui est mis comme argent non seulement pour réhabiliter les centrales qui sont à l'abandon, mais aussi pour construire les nouvelles centrales.
Oui, maintenant nous avons des soucis avec nos lignes téléphoniques, mais nous allons nous contenter des commentaires que les internautes nous ont laissés. Nous allons cette fois-ci à Chimboulou pour lire les commentaires des Boniface. Boniface qui nous dit ceci, nous sommes tous originaires de ces pays, il n'y a rien que nous ne connaissons pas. Les ressources énergétiques est un vocabulaire le plus employé dans les pays, mais moins réalisé. Tel est le cas de mon entité, les Chimboulou, d'Ibaya au Kassai Central. Nous avons le barrage Katende. Ah, il est encore revenu sur le barrage Katende, inachevé jusqu'aujourd'hui, depuis le régime passé de M. Joseph Kabila. Et même dans l'actuel régime, lors du passage de son Excellence Félix Tshisekedi, il a donné une promesse, mais son discours jusque-là n'est pas encore réalisé.
La liste est longue, monsieur le journaliste. On peut vous parler de Katende, de Sanga, de Solenyama, et dans les Touri, ainsi de suite. Vous avez autant de centrales hydroélectriques qui sont à l'abandon et qui, s'ils étaient réhabilités de façon correcte, pourraient être une réponse. Si nous parlons que de l'hydroélectricité, parce que d'autres sources que nous venons d'aborder ici, par exemple le solaire...
L'éolienne, oui, du côté de Boma, Mwanda, à l'est du pays aussi, il y a des potentialités.
Oui, donc nous avons comme ça plein de sources qui peuvent être exploitées pour résoudre le problème. Vous voyez, c'est là que nous disons que ce paradoxe-là doit s'arrêter. Je suis heureux que Kakobo la soit lancée. Peut-être que dans les prochains jours, nous allons apprendre que Katende va être lancée, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous poursuivions cet élan, que le gouvernement puisse poursuivre dans cet élan, en faisant en sorte qu'il y ait une gouvernance responsable du flux financier qui circule dans ces secteurs, et on aura des réponses.
Maître, est-ce que dans les pays de la région, il y a des exemples qui marchent, où les communautés locales se sont retrouvées et ces genres de projets ont boosté le développement?
Je vous parlerai d'un exemple d'un pays qui n'est pas peut-être de notre région immédiatement, c'est le Kenya. Et le Kenya s'est beaucoup amélioré en termes d'infrastructures, mais aussi des institutions et des régulations pour améliorer les niveaux d'accès à l'électricité de sa population, jusqu'à aller en province, inspirer la mise en place des plans provinciaux d'électrification que nous n'avons pas chez nous. En fait, toutes les initiatives de développement de la RDC sont très éparses, c'est un peu du saupoudrage. Ils ne font pas partie d'un plan, d'un programme d'électrification qui inclut l'utilisation des différentes sources de telle manière, avec un objectif précis. Par exemple, voilà, d'ici 2030, nous visons de tel niveau d'accès à l'électricité parce que nous sommes en train d'envisager de développer telle source. Ces plans-là n'existent pas. Et d'autres pays ont su les développer et vous pouvez aller chez eux, dans les villages, et vous avez l'énergie électrique. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la région où les gens font quand même des bonnes choses qui peuvent être à juste titre copiées par le gouvernement congolais.
Mais est-ce que le problème, c'est au niveau de la faiblesse dans la réglementation, c'est au niveau organisationnel? Qu'est-ce qui fait que depuis que le secteur a été libéralisé, on ne voit pas grand-chose?
La première chose que je dirais, c'est la réglementation d'abord. La réglementation, nous avons une bonne loi qui a été, ça il faut se le dire, mais cette loi-là n'est pas complète. Cette loi-là n'a pas été suffisamment vulgarisée pour inciter les opérateurs économiques à s'élancer dans les secteurs. Rappelez-vous que tous les projets énergétiques qui amènent à la résorption du déficit énergétique ne sont pas l'initiative des privés et plutôt des pouvoirs publics. Bien souvent, c'est les
privés qui boostent.
Et les privés ont besoin des garanties du gouvernement, ont besoin des incitations du gouvernement pour leur dire voilà un service public que nous devons adresser ensemble. Voilà.
On vous donne des exonérations, voilà des facilitations, des documents, tout
ça. Investir. On parle souvent des sources de mobilisation de ressources. L'électricité est une source de mobilisation de recettes très importante, mais qui est négligée aujourd'hui. Mais je vous dis que Autant le secteur minier a été géré comme il a été géré, avec tout ce que les Congolais déplorent, ainsi de suite, autant demain, nous allons nous retrouver dans une situation telle que le secteur de l'électricité va être géré majoritairement
par des privés,
et sans régulation, nous allons assister à une forme d'une loi quelconque qui fera que voilà, les privés seront, les populations seront justement
mis de côté
et ne recevront pas, parce qu'on va privilégier encore une fois les industries, on va privilégier les commerces qui consomment beaucoup d'énergie et on va négliger les populations.
Mais qu'est-ce faut-il faire alors pour compléter ou enrichir la réglementation dans le secteur? Qu'est-ce qu'il faut commencer par où?
Mais la réglementation, au bout de 8 ans ou de 9 ans de la mise en œuvre de la loi sur l'électricité, elle a montré ses faiblesses. Il faut qu'il y ait une forme de réactivité. Et l'institution par excellence pour travailler dans cette réactivité-là, pour voir là où ça ne marche pas dans la réglementation actuelle, c'est l'autorité de régulation du secteur de l'électricité qui a la mission, qui a la charge d'inspirer les réformes nécessaires. Nous disons, par les exemples que nous avons donnés, des conditions de répartition de l'énergie produite, des conditions d'indemnisation
des populations qu'on a délocalisées pour ériger les barrages.
Ou même cet autre problème, des conditions de suivi de la mise en œuvre de projets en construction par les comités de pilotage. Ça fait autant de questions qui demandent à ce qu'il y ait une adaptation de la réglementation pour adresser la question, et peut-être qu'on peut avoir des résultats solides dans les jours à venir.
Mais maître, au nom de la responsabilité sociale des entreprises, nous avons des entrepreneurs qui disent oui, nous on avait promis dès qu'on va ériger la microcentrale et qu'on va commencer à produire, en contrepartie on va construire une école, un centre de santé, et ces genres de projets existent et nous voyons à travers les pays.
Écoutez, la responsabilité sociale des entreprises, c'est quelque chose qui existe, mais qui est informel.
Comment ça?
Encore une fois, ben c'est informel parce que c'est l'entreprise qui vient, qui dit voilà, j'ai ma politique interne, qui veut que voilà, par rapport au bailleur de fonds qui m'appuie, je dois avoir une politique sociale. Et dans le cadre de ma politique sociale, voilà ce que je prévois de faire. Voilà. C'est quelqu'un qui fait ce one man show. Voilà, hein. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et en dehors de ce qui est raconté dans les rapports de durabilité qui sont produits ou encore dans les sites internet, on n'a pas une institution de l'État capable de faire le suivi d'évaluation de ce que ça représente comme apport social au niveau des populations, de l'impact que ça a. Et puis je vous rappelle que vous avez parlé des cahiers de charges ici, les cahiers de charges dans les secteurs de l'énergie n'impliquent pas comme on le voit dans d'autres secteurs, une négociation avec les communautés, ainsi de suite. Comme on le voit dans les secteurs forestiers, dans les secteurs de l'énergie, il n'y a pas encore une telle négociation qui aboutit à des clauses claires que voilà, des obligations bien définies que l'opérateur doit respecter. Jusque-là, c'est encore des, comme je vous ai dit, c'est un peu des cadeaux, de la bonne foi, de la bonne volonté, partant de leur propre RSE, vous voyez, qui nécessite qu'il y ait des institutions appropriées pour faire l'évaluation de ce que ils prétendent ou proposent mettre en œuvre comme œuvre sociale.
Et au niveau de l'impact environnemental, tous ces projets aussi ont des incidences au fait sur l'environnement. Est-ce que de ce côté-là, il y a aussi un suivi, une réglementation qui suit toutes les activités des opérateurs sur terrain?
Bah, écoutez, à l'heure actuelle, tout ce que nous avons, c'est la CE, hein, l'Agence congolaise pour l'environnement, et dont la mission consiste à faire la validation des études. Nous supposons que, avant la validation de ces études-là, je dis bien, je suppose que un travail qui est fait, un travail de vérification qui est fait pour voir que tous les standards environnementaux ont été respectés et qu'il y a des sanctions si l'on constate que ces standards-là ne sont pas respectés. À ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'une entreprise qui a déjà été sanctionnée ou qui a reçu des mesures correctives claires sur la manière d'adresser les questions environnementales par l'agence. Je rappelle, l'agence n'a pas vraiment un pouvoir contraignant. Hein? Nous avons besoin d'avoir une institution qui fait le suivi du respect des standards environnementaux, mais avec un standard, avec un pouvoir contraignant, capable de stopper les projets, capable de faire des réprimandes nécessaires qui s'imposent lorsqu'on tombe dans ces cas. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit le cas.
Oui, maître, vous, au niveau du réseau Mwanganza, dites-nous quel est le message que vous portez, les gros du message concernant surtout les profits que doivent tirer les communautés locales sur des projets énergétiques en RDC.
Eh bien, c'est très simple. Je vous ai dit que le réseau Mwanganza travaille sur trois axes. Le premier axe, c'est l'accès à l'électricité. Et dans l'axe de l'accès à l'électricité, c'est de voir qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi autant de potentiel, pourquoi autant de sources, pourquoi autant d'infrastructures et pas d'énergie. Nous avons comme ça fait des études socio-économiques sur plusieurs anciennes centrales pour faire des recommandations précises sur ce qui doit être fait. Les réseaux Mwanganza, c'est aussi les droits des communautés. Et c'est ce qui a fait l'objet des mesures d'indemnisation que nous sommes en train de promouvoir. Nous sommes encore en consultation pour voir si le gouvernement va être réceptif à cette proposition qu'il faut clairement définir les mesures qui doivent être appliquées pour procéder à la délocalisation ou à l'indemnisation d'une communauté par un opérateur qui met en place un projet de production de l'énergie électrique.
Oui, maître, mais pour ces cas précis-là, comment ça se passe sous d'autres cieux? On trouve, par exemple, la potentialité d'un barrage hydroélectrique au bord de la rivière Ndjili. On doit délocaliser les communautés. Qu'est-ce qui est fait sous d'autres cieux?
J'imagine que sous d'autres cieux, ils ont des régulations claires qui font que les communautés qui sont délocalisées sont bien traitées, peuvent être relogés dans des conditions qu'ils acceptent, dans des conditions humaines, et s'ils doivent recevoir quelque chose en termes d'indemnisation, eh bien, c'est quelque chose qui est clairement négocié et qui fait que il n'y a pas de plainte. Voyez, je suppose que je n'ai pas eu le temps d'étudier les cas, mais je suppose que ça doit être comme ça. Et pour revenir au troisième axe du travail de Mwanganza. Le troisième, c'est sur la gouvernance responsable, justement. Et dans le cadre de la gouvernance responsable, nous faisons le suivi de tous les flux financiers qui circulent dans les secteurs. La Banque mondiale finance avec autant de millions tel projet et tout ça. On veut voir est-ce que ça a fait ce que ça devait faire. On a entendu parler d'un projet Kinelenda. La ville de Kinshasa est porteur d'un projet qui s'appelle Kinelenda. Il y a un volet électricité dans le programme Kinelenda de la ville de Kinshasa. Il faut savoir, nous essayons de suivre combien d'argent a été mis là-dedans. Est-ce que le volet électricité du programme Kinelenda est en train de produire effectivement tout ça et ainsi de suite? Vous avez autant d'autres institutions qui reçoivent de l'argent de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale. Peut-être des autres bailleurs de fonds bilatérales, JICA, Union européenne et consorts. Nous sommes, dans le cadre de la gouvernance responsable, en train de tracer pour savoir si cet argent-là a servi réellement la question de l'accès à l'électricité.
Oui, en même temps aussi, le secteur, c'est un paradoxe parce que, quand vous voyez par exemple, il y a une année ou deux ans, le chef d'État est allé inaugurer un site où on devrait ériger une centrale photovoltaïque importante au plateau de Bateke. Mais sur le site, les herbes ont poussé à nouveau.
Justement, ça c'est un problème. Un problème d'organisation, c'est sûrement une personne qui a induit le chef de l'État en erreur, parce que c'est vrai, moi-même j'ai une concession pas loin de cet endroit-là, et bien je passe là, je ne vois rien du tout. C'est juste pour dire que les projets, que ce soit photovoltaïque ou microcentrale, hydroélectrique, ne doivent pas se faire de manière éparse. Quand ça émane du gouvernement, il faut un plan. Il faut un plan, une planification énergétique, un document de planification qui décrit correctement comment le pays entend développer ses sources énergétiques. Moi, je suis surpris de voir que le gouvernement congolais n'est pas encore réveillé sur ce point-là. L'énergie, c'est le nerf de la géopolitique mondiale actuelle. On n'avait qu'à voir ce qui se passe en Ukraine et ailleurs. Donc, si nous comprenons les choses, nous allons faire du développement de notre énergie électrique une question stratégique. Et pour que ça soit une question stratégique, il faut un plan. On a libéralisé, c'est vrai, les opérateurs économiques viennent à compte-gouttes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un plan clair. Chaque province de ces pays est dotée de sources. Et aujourd'hui, vous avez des formes d'hydroélectricité qui ne nécessitent pas forcément d'identifier des sites naturels.
Ou est-ce que vous avez un album qui donne toutes ces potentialités selon les régions, maître?
Les potentialités du pays.
Oui, un album, par exemple, on est à Bandundu, c'est telle source d'énergie qui mérite d'être mise en relief dans telle contrée.
Mais ça, c'est des questions qui sont réglées dans des documents officiels qui ont été déjà élaborés. Je vous renvoie, par exemple, dans la classe sur les énergies renouvelables, qui fait une très belle description de ce que nous avons comme potentiel dans notre pays. Il y a plein de documents qui existent, qui décrivent les potentiels que chaque pays a. Récemment, lors d'une récente étude que nous avons faite au sein du Centre Congolais pour le Développement Durable, CODED, nous avons montré aussi les potentialités qu'il y a dans chaque province en termes de sources d'énergie développables. Voyez ? Sauf que toutes ces sources-là ne font pas l'objet d'un plan que le gouvernement va contrôler et qui va servir à orienter les potentiels investisseurs qui veulent justement investir. Parce que ce qui est anormal et ce que nous décrions, c'est quoi? C'est le fait que vous avez des investisseurs qui viennent qui viennent ici et disent voilà, moi j'ai choisi Popocabac. Je vais aller développer une centrale à Popocabac. Pourquoi? Parce que j'aime bien Popocabac. Mais ça n'a pas de sens. Il faudrait que le gouvernement puisse recevoir l'investisseur et qu'il puisse lui dire voilà, monsieur, suivant notre plan, nous avons besoin de développer autant de mégawatts dans telle zone,
dans telle région.
Voilà, et nous aurons besoin de autant d'argent. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Ça serait un projet du gouvernement qui se serait approprié de par ses propres priorités, de par la planification de son développement. Mais lorsqu'un développeur vient, il vous dit non, voilà, je vais développer seulement dans telle zone. Ça peut ne pas cadrer avec la politique du gouvernement.
Ça peut ne pas cadrer avec les potentialités aussi de la région.
Voilà, ça peut être une zone qui n'est pas dans le radar du gouvernement comme une potentielle zone économique à développer.
Oui.
Vous voyez? D'où l'absence d'un plan donne lieu à un désordre dans le développement et ça s'est traduit par la situation dans laquelle nous sommes actuellement.
Oui, mais maître, dans les cadres du programme de développement de 145 territoires, les volets électricité est un volet très important. Comment voyez-vous le déploiement de ces projets à travers les pays?
Eh bien, les...
Sur le volet énergie électrique.
Les 145 territoires doivent faire ses preuves. Nous sommes tous fiévreux d'attendre les premiers résultats qui vont tomber. Et moi, particulièrement, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va être réalisé dans le volet énergie. Je pense que ça, c'est un débat que vous ouvrez un peu de manière anticipée. Attendons voir le moment venu. Lorsqu'on nous aura montré toutes les réalisations dans le volet électricité du programme 145 PDL, en ce moment-là, on pourra en discuter.
Maître, nous sommes contraints de boucler l'entretien à ces niveaux. Les téléphones nous ont causé un défaut, donc on va s'y rattraper prochainement. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un dernier message à lancer à l'intention de la population qui nous suit?
Non, tout d'abord, merci à vous de nous avoir eu ici. Tout ce que la population doit savoir, c'est que l'électricité, nous l'avons. Et que ce qui nous manque, c'est juste un peu d'organisation. Et... d'encouragement du secteur privé. Et que les secteurs privés qui s'élancent pour produire un peu doivent être encouragés. La population doit soutenir les secteurs privés qui viennent avec de bonnes intentions d'électrifier. Mais qu'elle doit réclamer son électricité, c'est un droit. L'électricité est un service public qui relève des prérogatives régaliennes de l'État. Et donc, ce n'est pas la libéralisation qui doit être interprété comme une affaire de fin. Disons que par la libéralisation, l'État ne doit pas considérer que voilà, ça, c'est une affaire qui appartient au privé maintenant. C'est toujours une prérogative régalienne. Et donc ces droits-là, ils doivent les revendiquer.
Maître Eric Kasongo, vous êtes directeur exécutif du Centre Congolais pour le Développement Durable, CODED en sigle. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine occasion, dans Okapi Service.
Merci beaucoup. À la prochaine.